bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, nouveau podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, on va traiter quelques petites actualités, comme toujours, le rendez-vous du mardi matin à 8h. Voilà, on va démarrer tranquillement. Alors, première petite actualité du jour que j'ai... il y en a un, deux, trois, il y en a trois. La première actualité du site, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end sur mon site? J'ai publié... un petit contenu qui dure à peu près une heure, je pense, de mémoire, peut-être, on doit être dans un petit peu plus d'une heure, sur 14 métiers qui sont liés de près ou de loin au monde du fitness, de la musculation, de la nutrition, un métier fitness, quoi. Parce que finalement, j'ai reçu une question d'un membre, je ne sais même pas s'il est membre ou pas, mais en tout cas, c'était une question qui me disait « Théo, quels sont les métiers plus ou moins pour accéder à un métier lié au fitness ? Quelles sont les idées que tu pourrais avoir, en gros ?» Et j'ai décidé, en fait, de proposer 14 métiers qui sont liés à ça. Alors, d'entrée de jeu, je parle tout de suite du coach, le coaching, donc comment devenir coach, comment devenir diététicien, etc. Enfin bon, voilà, dans le truc légal, etc., des diplômes. Donc ça, c'est la première partie. Et après, il y a 14 métiers qui sont ni coach, ni nutritionniste, médecin, nutritionniste, diététicien, etc. C'est d'autres métiers, avec ou sans diplôme, avec différentes grilles de salaire, de revenus, etc. Et bon, voilà, elle a eu pas mal de bons retours, donc je vous le partage là. Vous avez le lien directement dans les notes de l'émission. C'est 14 métiers fitness, quelque chose comme ça, je crois que j'ai marqué. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien pour voir ça. Allez, juste pareil, je continue à envoyer toutes les semaines, donc il y en a à peu près 3 par semaine qui arrivent dans votre boîte mail, des recettes pendant le confinement, donc des petites recettes de cuisine. La prochaine, donc celle que vous avez dû déjà avoir hier matin, ceux qui sont abonnés, c'était le cordon bleu version fitness, donc avec le petit fromage fondu et tout dedans. Donc j'ai une version saine de faire ça, et je voulais partager avec la photo, les ingrédients, la préparation, tout ça. Donc c'est gratuit, vous recevez ça par email, ça vous donne un petit peu des idées pour cuisiner sympa et sans sortir des clous au niveau de la diète, quoi, pour rester concentré et focus et pas finir le confinement. Déjà, le but, c'est surtout de pas arriver aux fêtes de fin d'année avec déjà 5 ou 10 kilos de graisse à perdre, quoi. Voilà. Bon, bref. Tout ça, vous avez les liens dans les notes de l'émission. Si vous voulez vous abonner pour recevoir les recettes, vous tapez fitnessmiss.fr/news et vous avez juste à mettre votre petit email et vous recevez ça dans la matinée en général ou alors au compte-gouttes. Allez, on démarre. Première actualité, est-ce que vous connaissez l'émission The Biggest Loser aux États-Unis? C'est une émission qui, en fait, c'est le plus grand perdant, si on traduit ça. Donc, en fait, la traduction un peu plus simple, c'est celui qui arrivera à perdre le plus de poids, en fait. Et ils prennent des personnes en très très fort surpoids, ils leur font faire un régime, ils leur font faire un programme d'entraînement, tout un style de vie remanié, et celui qui a perdu le plus, enfin qui a celui qui a le plus de résultats gagne l'émission. Donc je simplifie, c'est peut-être pas exactement comme ça que ça se passe, mais vous comprenez l'idée. Et en fait, il y a des gens, donc il y a l'Institut National de la Santé qui a publié une étude sur les concurrents de cette émission, et les résultats évalués sont pas vraiment positifs, parce que sur les 14 anciens candidats qui ont participé à l'étude, 13 ont repris du poids, voire plus. Et 4 d'entre eux sont en fait devenus plus lourds que lors de leur première émission. Donc en fait, qu'est-ce que ça, pourquoi ça m'intéresse de vous partager ça? Parce que je reçois très souvent des messages, des questions avec des personnes un petit peu de tous les horizons qui ont testé ou des régimes ou des opérations, même des opérations alors pour réduire l'estomac, pour faire tout un tas de choses comme ça pour essayer de perdre du poids. Et finalement, ces personnes m'envoient des messages après ça et me disent j'ai tout repris, j'y arrive pas, j'ai essayé les régimes, je me suis même fait opérer et tout est revenu. Et en fait, ce que démontre aussi cette émission, ce que démontre toutes ces choses-là, c'est que on a l'impression qu'il y a une catégorie de personnes qui est condamnée à rester en surpoids, à le redevenir. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi je suis pas d'accord avec ça? Parce que je pense, et j'en suis même convaincu, que 6 mois, 8 mois, 1 an à faire bien les choses n'est pas suffisant pour valider, ancrer, tatouer des bonnes habitudes à vie. Si j'avais fait mon premier régime pendant 3 mois et qu'après j'avais repris mon alimentation traditionnelle, j'aurais repris très très vite, voire plus. Ce qui fait la différence, c'est déjà de faire le deuil de son ancien style de vie. Faire le deuil de son ancien style de vie, c'est se dire bon ben j'ai eu des belles années, j'ai bien profité, j'ai bien mangé, je me suis fait plaisir, etc. J'ai pas fait de sport, j'ai plutôt profité de mon canapé, de ma télé, de la sédentarité, etc. Même si certaines personnes l'ont subi plus que d'autres d'ailleurs, parce qu'on est vraiment pas tous égaux par rapport à ça. Mais bon, mettez n'importe quel individu dans la sédentarité pure et une mauvaise alimentation, il en ressortira pas grand chose de positif 10 ans après. Mais déjà, il faut faire le deuil de ça. C'est-à-dire, beaucoup de personnes partent dans l'idée que le régime est une étape compliquée qui sera récompensée par la reprise de tout ce qui nous a manqué durant le régime, c'est-à-dire tous les aliments qu'on mangeait avant, donc caloriques, transformés, etc. Faire ça, c'est pas comprendre comment ça fonctionne. Il faut en faire le deuil, en fait, de ça. Il faut se dire, OK, les habitudes que j'ai, c'est terminé, c'est fini. Elles ne seront plus jamais compatibles avec mes attentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus jamais manger des choses qui nous plaisent, mais ça voudra simplement dire que 80-85% du temps, il faudra faire autrement si on veut rester fit, c'est-à-dire rester en forme. Au niveau de sa santé, déjà, c'est très important, mais également au niveau de l'image qu'on se renvoie hein, quand on se regarde dans le miroir. Parce que ça, c'est un des leviers les plus puissants. Quand souvent, j'entends des gens, quand je les ai en consultation ou quoi, qui me parlent de leur fameux reflet du miroir un jour, comme ça, ils se sont vus, ils ont dit « c'est plus possible ». Donc ça compte beaucoup, et certainement plus que la santé, parce que la santé, c'est tellement long terme qu'on n'a pas un levier d'action direct avec le risque santé, quoi, quand on est en surpoids. Donc, moi, ce que je peux donner aux gens comme conseil qui ont beaucoup de poids à perdre ou alors qui ont repris tout leur poids, c'est vraiment du style de vie. C'est global. C'est-à-dire que c'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que c'est pas où tu es en mode régime et jamais tu fais d'écart et un autre mode où tu fais tout le temps ce que tu veux. En fait, c'est un hybride entre les deux. C'est-à-dire que si le bon équilibre, c'est faire bien 80, 85, 90% du temps et s'accorder, on va dire, 10, 15% du temps du plaisir. Mais ça, c'est à l'échelle d'une semaine. C'est pas à l'échelle d'une année. C'est-à-dire que c'est pas uniquement pendant une semaine de vacances que t'en profites. C'est par exemple le week-end, tu fais un repas entre amis, tu fais un resto avec ta femme, avec ton mari, enfin j'en sais rien. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que de toute façon, les extrêmes ne marchent pas dans les deux cas. Un extrême où on se laisse aller, ça donne beaucoup de surpoids. Et dans l'autre sens, un extrême où on se restreint toujours, ça donne de la frustration. Donc c'est vraiment... Et c'est pareil, le sport, beaucoup de personnes le voient soit à l'excès, soit rien du tout. Mais il y a un équilibre, c'est-à-dire on peut en faire un peu. C'est-à-dire que moi, je recommanderais toujours à une personne de faire plutôt 15-20 minutes de sport tous les jours, d'activité physique tous les jours, que une heure ou deux heures le week-end. C'est, à mon sens, ça me semble beaucoup plus cohérent. Parce que les journées, c'est quand même... Enfin, tous ceux qui font du sport ont bien... qui m'écoutent ont déjà dû se rendre compte d'une chose, c'est la différence de sensations physiques et même intellectuelles, psychiques, qu'on peut avoir lors d'une journée où on est en mode sédentaire pur, par exemple le week-end où on se laisse un petit peu aller, et une journée de la semaine. la qualité du sommeil n'est pas la même, on se sent pas pareil, souvent les migraines c'est souvent le week-end, c'est pas la semaine, enfin bon, toutes ces choses-là on le voit bien quand on est en mode inactivité quoi. Donc c'est pour ça que le style de vie devrait plutôt être global et pas binaire, c'est-à-dire où je fais tout bien ou je fais tout mal, et il faut, enfin, faut vraiment pas réfléchir comme ça, parce que c'est, la vie c'est pas ça en fait, c'est pas personne, on a beau admirer des gens qui sont super en forme, qui ont des super abdos, tout ce que vous voulez, et la réalité vous montrera toujours que ces gens-là se font plaisir de temps en temps. Les robots n'existent pas quoi, il n'y a pas de secret. Bref, on continue, deuxième article. Alors là, c'est sur le site de l'ANSES, petite actualité qu'ils ont donnée. Inactivité physique et sédentarité chez les jeunes, l'ANSES alerte les pouvoirs publics. Alors, ils ont fait des études, etc. Ils disent qu'elle avait déterminé que les seuils sanitaires spécifiques aux 6-17 ans... Alors, j'ouvre pour l'avoir en plus grand. Oui, voilà. Elle avait déterminé les seuils, c'était un avis de... Là, ça remonte à 2016, donc le premier avis de 2016. Elle avait déterminé les seuils sanitaires spécifiques aux 6-17 ans associés à ces deux facteurs de risque que sont la sédentarité, le temps passé assis ou allongé devant un écran, télévision, ordinateur, jeux vidéo, hors du temps scolaire. Lorsqu'il est supérieur à 2 heures par jour, ce temps d'écran peut constituer un risque pour la santé. Deuxième point, l'inactivité physique. Lorsque l'activité physique est inférieure à 60 minutes par jour, incluant le sport, pratiqués pendant le temps scolaire, les jeunes sont considérés comme insuffisamment actifs. Donc je continue leur rapport. Qu'est-ce qu'il disait ? Oui, voilà. Inactivité physique et sédentarité, les deux tiers des 11-17 ans dépassent les deux seuils sanitaires. Selon l'expertise menée par l'agence, parmi les jeunes de 11 à 17 ans, 66% présentent un risque sanitaire préoccupant, caractérisé par le dépassement simultané des deux seuils sanitaires, plus de 2 heures de temps d'écran et moins de 60 minutes d'activité par jour, d'activité physique par jour. 49% présentaient un risque sanitaire très élevé, caractérisé par des seuils plus sévères, soit plus de 4h30 de temps d'écran journalier et / ou moins de 20 minutes d'activité physique par jour. Parmi ceux-là, 17% sont même particulièrement exposés, cumulant des niveaux très élevés de sédentarité, plus de 4h30 d'écran par jour et d'inactivité physique à moins de 20 minutes par jour. Le niveau de sédentarité est plus élevé encore chez les adolescents les plus âgés, donc entre 15 et 17 ans, et chez les jeunes issus des milieux les moins favorisés. Par ailleurs, pour les 11-14 ans, les filles sont moins nombreuses, 15,5%, que les garçons, 24%, à pratiquer au moins 60 minutes d'activité physique par jour. Donc, les filles, mettez-vous un petit peu à bouger. Donc les résultats de cette expertise interpellent fortement l'ANSES. En effet, il est extrêmement rare qu'une évaluation des risques montre que les deux tiers de la population étudiée présente un dépassement des seuils sanitaires, traduisant ainsi une exposition à un niveau de risque élevé pour la santé. Bon, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué d'imposer du sport hors milieu scolaire. Et peut-être que ça serait intéressant de mettre peut-être, enfin intéressant, j'en sais rien, mais essayer d'aller à l'encontre de ce que veut faire un ado, c'est compliqué. Malheureusement, les seules choses qui lui sont un peu imposées, c'est l'école. Donc l'école, le collège, etc. Si on veut vraiment les aider, les jeunes, mieux vaut commencer par ancrer plus de dépenses physiques dans des moments où ils n'ont pas le choix, en fait. C'est-à-dire à l'école. On leur impose bien depuis des années, et nous, enfin moi j'en fais partie, d'être assis. Donc en fait, d'amplifier cette sédentarité. Mettez en place, j'en sais rien, ou des bureaux debout, ou faites des tests, des classes tests, où il y a du sport un petit peu plus, ou des choses ludiques, d'aller marcher. Parce que si vous comptez sur ce qu'ils vont faire hors de la classe, hors des cours, hors du collège, hors de l'école, non, il y a... Et puis dans les milieux un peu défavorisés, bah, les enfants, ils sont souvent, enfin, malheureusement, livrés un peu trop à eux-mêmes, et c'est compliqué. D'ailleurs, je me rendais compte d'une chose, j'en ai discuté hier avec une personne, enfin, on en a parlé rapidement hier, c'est que tous ceux qui sont de ma génération, donc qui ont été adolescents dans les années 90-2000, on va dire, entre la jonction entre les deux, il y a quand même une profonde différence avec l'adolescence aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je me considère pas comme un vieux con, j'ai que 33 ans, mais je me rends bien compte de mon style de vie d'adolescent n'est pas le même que celui des ados d'aujourd'hui. Déjà, observez juste une chose. Alors, il y aura toujours des gens qui vont me dire non, c'est pas vrai, ou oui, ils vont voir les différences, mais un truc tout bête, mais est-ce que vous voyez encore beaucoup de scooters, enfin, les mobylettes, c'est peut-être plus d'actualité, mais on va dire de scooters ou de motos, enfin, vous savez, tous les 50 cm3 là, dans les rues. Personnellement, j'en vois très peu. Quand j'étais ado, il y en avait beaucoup. C'est-à-dire qu'on était en groupe, enfin ça roulait quoi. On roulait, on allait de ville en ville, enfin on se regroupait à des endroits, etc. Et il y avait quand même beaucoup de deux roues de 50 cm3. Aujourd'hui, il y en a moins. Donc déjà, enfin est-ce que je sais pas, il y a ce côté où que font les ados en ce moment. Deuxième chose, on était souvent dans la rue, donc enfin dans la rue ou dans la garrigue dans le sud de la France, on appelle ça comme ça la forêt, plus dans le nord et tout, on appelle ça la forêt, dans le sud c'est la garrigue, c'est la végétation n'est pas la même, enfin bon bref, on se promenait quoi, on était en mouvement, où on faisait du vélo, où on jouait au foot, enfin voilà, on était vraiment en mouvement. Et je me demande aujourd'hui en fait où sont les ados. Alors il y en a qui vont me dire bah ils sont en bas de ma tour. Oui, d'accord, il y en a toujours, mais je veux dire où sont les jeunes, les adolescents que je voyais moi, enfin que j'étais moi, l'adolescent que j'ai été, donc qui se promenait, qui était avec ses potes, qui voilà, je ne les vois plus en fait. Donc où ils sont, chez eux ou chez les autres, ils sont bien quelque part. Et ça c'est quand même étrange. Alors il y en a qui vont me dire mais Théo, tu te rends pas compte, en fait les ados ne se voient plus. Quasiment plus. Maintenant, c'est que du WhatsApp, du Snapchat, du machin, du truc. Tout est en ligne. Et ça, malheureusement, je pense que c'est aussi un gros facteur de sédentarité. Parce que si on peut être avec ses potes en étant au fond de son lit, bah déjà d'une, je ne sais pas ce que ça va donner une fois adulte. Mais surtout, enfin bon, je ne sais pas. Enfin, c'est un constat que je fais. Moi je me dis que les ados du futur seront vraiment pas doués de leurs 10 doigts s'ils savent même pas bricoler leur mobylette, ou enfin je pense que c'est une bonne école de la vie, tous ces trucs là, les deux roues, de bricoler, d'être dehors, de se fabriquer des trucs, enfin voilà, d'être en mouvement quoi. Je sais pas ce qu'ils savent, ils vont savoir peut-être coder ou pirater des trucs, j'en sais rien, enfin en termes manuels en tout cas, j'ai peur que ce soit un petit peu pauvre comme école de vie, on va dire, pour les ados d'aujourd'hui. Enfin bon, bref, je dérive un petit peu, mais pour moi, tout est lié. D'être dehors, c'est la lutte contre la sédentarité. Et je vois pas d'ados dehors, donc et pourtant, je peux vous dire que je vis pas dans un quartier de luxe. Au contraire, d'ailleurs, autour de moi, il y a des résidences avec du fric et en même temps des résidences HLM. Donc, j'ai un bon éventail de population, de familles, etc. Et je ne vois pas autant d'ados qu'il pouvait y en avoir à mon époque. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous faites le même constat. Dites-le-moi dans les commentaires, en tout cas, si vous percevez aussi moins de deux roues, de 50 cm3 comme ça dans les rues. Moi, personnellement, quand je croise un scooter, j'ai plus de chances de voir un mec, un cadre en costard qui veut éviter les bouchons sur un scooter 125 qu'un ado sur son 50 trafiqué avec un kit et tout. Je vois plus de ça, quoi. Bref. On continue les actualités, donc la dernière de la semaine, CCC. Ah oui, c'était sur Cerveau et Psycho. Je rouvre le lien, hop, voir l'original. Alors, le prix neuronal des hamburgers. Donc, c'est un article de Cerveau et Psycho de Sébastien Boller. Alors, de mémoire, Sébastien Boller est rédacteur en chef du magazine. D'ailleurs, ce magazine, j'en ai déjà fait plus ou moins la promotion, hein, parce que je ne les connais pas et tout, mais c'est un magazine que j'ai même été abonné à ce magazine. Je trouve qu'ils s'en sortent bien. En tout cas, c'est ce qu'on perçoit, enfin ce que je perçois d'eux. Je trouve qu'ils font du bon boulot et c'est un magazine qui apporte quelque chose où ils ont réussi quand même à faire en sorte que le magazine t'as quand même envie de l'acheter malgré la disponibilité des études et tout. Je trouve que ils font, enfin bon voilà, c'est mon point de vue. Ils font du bon boulot quoi. Donc voilà les citations que j'ai pris de l'article, cet article qui s'appelle, je le rappelle, le prix neuronal des hamburgers. 4 jours de régime fast-food suffisent à altérer déjà le fonctionnement d'une zone cérébrale de la mémoire, l'hippocampe. Donc je cite, un hamburger, une portion de frites, une gaufre au chocolat, faites cela 2 fois par jour pendant 4 jours et vous verrez déjà chuter votre capacité de mémorisation et d'apprentissage verbal. Votre capacité à réguler votre appétit et votre prise alimentaire s'effondre aussi. Alors dans l'étude, il disait que ceux qui avaient subi le régime à base de fast-food ne ressentaient plus la satiété et avaient des difficultés d'apprentissage verbal, deux signes que leur hippocampe commençait à battre de l'aile. Donc on peut voir ici que... pourquoi j'ai récupéré cet article ? Parce que ce qui me plaît là-dedans, c'est... indirectement, cet article démonte un petit peu l'idée de toutes les calories se valent, donc des protéines d'hamburger versus des protéines d'un blanc de poulet, c'est pareil. Non. La junk food, le fast food, la bouffe industrielle, la merde en fait, hein, c'est pas fait pour un régime tout le temps. Donc là, ils disent déjà 4 jours d'alimentation. Donc, alors, ils parlent des acides gras, surtout. Je vous en ai déjà parlé dans pas mal de formations VIP d'ailleurs de l'impact des acides gras au niveau du cerveau, etc. Mais des acides gras du côté sombre des acides gras. Je parle pas des graisses essentielles et tout. Je parle vraiment du côté sombre des acides gras. Et on voit qu'en 4 jours, donc assez rapidement, il peut se passer des choses assez désagréables en fait qu'on ne ressentira même pas en fait. Hein. Ça modifie la perception des choses. Ça modifie également notre mémorisation, etc. Donc c'est quand même, on voit qu'il y a un effet très court terme, alors que globalement, on dit ouais, mais tu manges McDo, machin, ou tu manges fast-food et tout, mais tu verras à long terme ce qui t'arrivera. Ben non, pas forcément. À court terme, déjà, il peut déjà se passer des choses. Donc surtout que c'est une bouffe qui est souvent fréquente chez les ados, chez les étudiants et tout, qui ont souvent des charges en termes d'apprentissage et tout, ceux qui font des études, hein, qui est assez importante. Donc manger mal. Plus, en fait, vous tirez une balle dans le pied, quoi. Donc voilà. Donc les calories ne se valent pas. Manger mal, c'est pas sur le long terme que c'est négatif, mais c'est aussi sur le court terme. Donc court terme, moyen terme, long terme, c'est toujours perdant. Donc encore une fois, pour revenir au sujet précédent, le style de vie, ça doit être vous pouvez en manger, mais pas souvent. Pas tout le temps et pas d'affilée surtout, c'est-à-dire de pas vous goinfrer pendant une semaine de fast-food et puis la semaine d'après faire un gros régime quoi. Bref, voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler. Bon, on passe à la question du jour. Alors, quelle est la question du jour ? La question du jour que j'ai récupérée, elle est la suivante. Alors, je la lis. Salut Théo. Auparavant, j'ai déjà entrepris une sèche qui a duré 2 mois. Mais pendant ces 2 mois, j'étais très fatigué et j'avais pas trop le moral. Maintenant, j'aimerais refaire une sèche car j'ai pris du gras, mais j'ai une peur psychologique énorme qui m'empêche de pouvoir refaire une sèche. En effet, j'ai peur de ressentir les effets secondaires de la sèche, comme le peu d'énergie, les courbatures, le moral à zéro, etc. Comment passer outre ça ? Merci beaucoup. J'espère profondément que tu répondras à ma question à plus tard. Bon, mais déjà merci pour ta question parce que je pense que elle parle à pas mal d'auditeurs. Je vais la découper en fait. Je vais la trancher. Je vais en faire des fines tranches de réponses. Donc la première partie, c'est les courbatures. Tu me dis qu'un effet secondaire en sèche, c'est les courbatures. Mais en fait, les courbatures, elles sont présentes tout le temps. C'est-à-dire que, quel que soit le style alimentaire que tu vas avoir, en tout cas l'approche, le but que tu vas avoir, c'est-à-dire une diète pour essayer de maintenir un peu tes résultats, une diète pour prendre de la masse musculaire ou une diète pour sécher, si tu es sujet aux courbatures, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça, il y en a qui les ressentent beaucoup, d'autres moins, les femmes les ressentent un peu moins, dû à leurs hormones, elles sont obligées de taper plus fort pour en avoir autant que les mecs. Enfin bon, bref, voilà. Si t'es sujet aux courbatures, il est probable que, quelle que soit la phase dans laquelle tu te trouves, donc prise de masse, perte de graisse, maintien, tout ce que tu veux, tu ressentiras quand même des courbatures. Moi, personnellement, je courbature normalement, c'est-à-dire que j'ai pas des courbatures extrêmes ni pas du tout, c'est-à-dire que si, quand je fais une bonne séance, j'ai des courbatures, point. Que je sois en sèche, que je sois, bon, des prises de masse, j'en fais pas, enfin, moi quand je fais une prise de masse, pour beaucoup de personnes, c'est pas énorme. Mais bon, quand je mange en léger surplus, j'ai toujours des courbatures. Donc, les courbatures, c'est pas quelque chose qui est réservé à la sèche. Les courbatures, c'est quelque chose que tu vis plus difficilement en sèche. Et moi, je pense que ce qui se cache derrière les courbatures, c'est ta résistance à la douleur. C'est-à-dire que d'avoir mal t'épuise plus en sèche que d'habitude. Et ça, c'est un petit peu normal. Donc, comment passer outre ça? Déjà, la première chose, c'est quand tu signes pour une sèche ou une perte de graisse, parce que faut pas oublier une chose, c'est que la sèche, c'est un abus de langage. Quand on parle de sèche en musculation, on parle en réalité d'une perte de graisse. La vraie définition de la sèche, en fait, c'est un terme qui a été pris du bodybuilding, du culturisme. C'était les dernières étapes pour virer toute la rétention d'eau avant une compétition pour être le plus sec. Donc avoir un aspect vraiment muscle brut, quoi. Il y a rien entre la peau et le muscle. Mais bon, vu que le fitness est un peu démocratisé, le terme sèche parle à tout le monde maintenant. C'est quand on dit on fait une sèche et qu'on veut perdre du gras pour avoir des abdos, des veines, des tout ce que vous voulez. Donc bref, quand tu es en période de sèche, il faut te dire une chose, c'est que c'est pas quelque chose qui doit être long terme. Donc, les effets secondaires des courbatures, donc c'est-à-dire de la perception de la douleur amplifiée, qui pourrait avoir tendance à te fatiguer, parce que quand on est en sèche, on est fatigué, d'avoir mal, ça épuise, et donc les courbatures, potentiellement, peuvent amener une fatigue supplémentaire quand tu es en perte de graisse. Donc, déjà, il faut identifier, enfin moi, si j'étais à ta place et que je souffrais vraiment de ça, il faut identifier les séances qui te donnent le plus de courbatures désagréables. En règle générale, c'est le bas du corps ou le dos. Donc ces séances-là, moi je te recommande de les mettre quand, j'imagine que quand tu fais une sèche, tu fais quand même des moments où tu recharges un petit peu durant la semaine, donc de mettre tes séances, par exemple la séance cuisse juste avant de recharger et la séance dos après ta recharge, de manière à profiter d'une recharge le soir des cuisses, et de profiter de l'effet de la recharge, donc que tes stocks de glycogène soient un peu pleins pour ta séance de dos que tu vas faire le lendemain. De cette manière, tu vas mieux vivre ça. Parce que, alors ceux qui n'ont jamais fait de perte de graisse ou de sèche et tout ça, ils s'en rendent pas compte, mais en début de semaine, quand on sort d'un rebond, on a beaucoup plus de facilité à gérer des entraînements hardcore qu'en fin de semaine, quand on commence à tirer un peu sur la corde. Et donc, c'est vu que là, pour toi, c'est les courbatures à gérer, ça pourra t'aider à un peu mieux les vivre. Voilà, parce que tu auras un peu plus d'énergie. Donc moi, ça, c'est mon conseil. L'avantage, c'est que vu que les courbatures se manifestent le lendemain, voire 24 heures, voire 48 heures après, l'approche que je viens de te donner est plutôt cohérente. Donc ne cherche pas à ne pas avoir de courbatures. Les courbatures, si t'en as, t'en auras toujours. Les courbatures sont liées aussi à la nouveauté. C'est-à-dire que peut-être que toi, quand tu fais une sèche, tu changes ton programme d'entraînement et donc du coup, il devient plus intense. Moi, je te recommande d'être tout le temps autant intense que d'habitude. C'est-à-dire que si t'es plus intense en sèche, je te recommande de prendre cette intensité et de l'avoir tout le temps, en fait, même quand tu ne l'es pas. Voilà. Deuxième tranche de ma réponse, donc c'est le peu d'énergie. Alors, ceux qui ressentent souvent le peu d'énergie, ça peut être plusieurs choses. La première chose, c'est que quand ils vont réduire leur diète, ils vont trop la réduire. C'est-à-dire qu'ils vont passer d'une diète à 3000 calories et ils vont la découper directement, ils vont passer à 1600 ou 1700 calories. Évidemment, c'est trop. C'est un drop trop important. Sur deux jours, tu t'en rendras pas compte. C'est-à-dire que tu commences à 1700 calories le lundi, ok, ça passe, mardi, ok, ça passe, puis mercredi, ça commence à piquer. C'est normal, ton corps, il comprend rien à ce qui lui arrive. Il avait une vitesse donnée pour ses 3000 calories et d'un coup, tu lui donnes que 1700. Il faut que tu aies une transition. Une transition, ça peut être de l'ordre de 500 calories. Alors, au début du régime, pas besoin de faire des ajustements à 200, 300, etc. Tu peux couper dans le lard, tu peux couper de 500 calories. Mais ça voudrait dire que tu serais à 2500, quoi. Déjà, tu t'habitues à ça tranquillement, comment ça se passe, etc. Mais le peu d'énergie, ça peut être aussi ce que tu manges, le timing. Par exemple, un truc tout bête, tu peux être au régime et avoir des glucides en pensant que le peu de glucides que tu as va te permettre d'avoir de l'énergie, ce qui est une bonne réflexion. On peut partir du principe que c'est une bonne réflexion. Mais si ce n'est pas des bons glucides, alors quand je dis des bons glucides, si tu fais varier ton insuline trop fortement, c'est-à-dire que les glucides que tu choisis, bah c'est du riz blanc, c'est du pain, c'est même complet, hein, des choses comme ça, tu vas avoir une gestion de ta glycémie qui sera un peu aléatoire, et donc du coup tu vas ressentir boost, fatigue, hypoglycémie, etc. Donc là aussi, au régime, on ressent plus ces variations que quand on mange beaucoup en prise de masse ou en maintien. Donc tu verras aussi que si tu prends un petit déjeuner à base de protéines et de graisses, c'est un constat, hein, tu ressentiras moins de perte d'énergie que si tu prends un petit déjeuner, par exemple, avec des flocons d'avoine. Donc, il faut vraiment que tu arrives à t'analyser par rapport à ça. Et encore une fois, ceux qui peuvent ressentir aussi beaucoup d'effets secondaires au niveau de la fatigue quand ils sont en sèche, c'est ceux qui ont un métier physique en plus du sport. Des gens qui avaient une alimentation très riche et qui du jour au lendemain se disent qu'ils veulent sécher, parce que oui, ça existe, des gens qui sont actifs et qui ont besoin de sécher, et du jour au lendemain, ils se retrouvent à tout couper, les glucides, tout ça, beaucoup de calories, et ils sont fatigués. Il faut se dire une chose, c'est que tous ceux qui ont un métier très physique, ils peuvent se permettre de manger plus et d'avoir un petit peu plus d'énergie au petit déjeuner, au repas du midi, etc. Parce qu'une partie de ce qu'ils vont consommer, donc ce qui va circuler, une partie de leur glycémie est compensée. Donc elles ont une moins forte élévation de leur glycémie parce qu'une partie est compensée par leurs dépenses physiques liées à leur emploi. C'est pour ça que le sédentaire ressent souvent beaucoup plus le coup de mou à 11h quand il a un mauvais petit déjeuner que le plaquiste, le maçon, le bûcheron. Donc ça, il faut que tu identifies toutes ces choses-là. Donc je connais pas ton style de vie, je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais voilà. Et la dernière tranche, c'est le moral à zéro. Le moral à zéro, là, c'est pas compréhensible. Parce que logiquement, quand tu fais une perte de graisse et que tu sais où tu vas, que tu as confiance dans la méthode que tu appliques, tu as plutôt le moral à 200%. Un moral à zéro, ça veut dire que tu as cumulé un régime hypocalorique, pardon, mais qui est approximatif et qui est surtout incertain dans ta tête. C'est-à-dire que t'es pas convaincu de ce que tu fais, mais pourtant ça t'épuise et tout. Donc t'es convaincu que tu vas être épuisé, mais t'es pas convaincu que ça va fonctionner. Et là, ton moral, effectivement, il peut être à zéro parce que tu vas avoir remise en question, tu vas avoir une moindre volonté et tout ça. Si par contre, t'es convaincu que la méthode que t'appliques, elle fonctionne, déjà, tu sais où tu vas. Donc tu sais que tu sacrifies du temps présent, donc tu sacrifies des journées à manger diète pour un résultat à venir satisfaisant. Donc déjà, t'es à la carotte, ça te permet de pas avoir le moral à zéro. Après, il faut que t'acceptes ça. Il faut accepter que durant une perte de graisse, si tu es de nature à être plutôt pessimiste, quand tu es en sèche, ça va être un peu accentué. Si tu as de nature à être plutôt jovial, en sèche, tu vas être un peu moins jovial. On a toujours tendance à... C'est un petit peu, tu sais, comme les gens, l'alcool chez les gens, la personne qui est agressive en temps normal, quand elle picole, voilà, c'est comme la potion magique, sauf qu'elle va être encore plus agressive, et vice-versa. Bref, il faut te dire une chose, c'est que le moral à zéro, c'est très lié à ta psychologie du moment. Et si tu es bien occupé, si tu es bien stimulé au niveau social, etc., tu n'auras pas le moral à zéro. C'est, encore une fois, je pense que ce que tu ressens comme le moral à zéro, c'est surtout une baisse d'énergie, et cette baisse d'énergie t'empêche de bien percuter, de bien gérer les événements de la journée. Et s'il y a un secret un peu trop bien gardé par rapport à la sèche, c'est la qualité de ton sommeil. Quand tu dors bien, alors c'est le sommeil, tu vois, c'est à la fois contradictoire, tu sais, on n'arrive pas bien à comprendre comment ça se passe. Mais on a tous sa propre durée idéale de sommeil. On est tous des êtres humains, donc on a un besoin en sommeil moyen à 7-8 heures, tu vois, quand on est sportif. Mais il y a toujours des gens plus et des gens moins. Mais ce qu'il faut que tu trouves pour toi, donc là je t'invite à faire une semaine de test, tu mets ton réveil à diverses heures différentes. Donc admettons, si tu te réveilles à 7 heures, t'en mets un à 7h, un à 7h15, un à 7h moins le quart, etc. Et tu testes comme ça plusieurs éveils, et voire même t'essayes d'avoir une demi-heure en plus parfois, une demi-heure en moins parfois, quitte à te réveiller plus tôt ou un peu plus tard. Bon, bien sûr, plus tard, si t'as un boulot où on t'impose d'être à telle heure, ça va être compliqué, mais donc tu gagneras plus à le faire plus tôt. Donc ce qui t'imposera de te coucher certainement plus tôt aussi. Mais au début, ne touche pas à l'endormissement, donc couche-toi à la même heure, mais essaye de trouver le moment où tu te sens le mieux réveillé. Tu testes un quart d'heure avant ou 30 minutes avant, etc. Pour ça, ce que tu peux utiliser, une application que moi j'utilise, je crois que la fonction réveil en fonction des cycles de sommeil est gratuite, elle s'appelle Sleep Cycle. Donc Sleep Cycle, l'application, le logo il est orange avec un réveil en blanc, qui peut te permettre de, tu mets le réveil, par exemple tu dis moi demain je veux me réveiller à 6h30, et ben t'as une fonction qui te propose un réveil facile entre 6h et 6h30. Donc en fait, il va choisir dans ce laps de temps le moment où il détecte que ton sommeil est le plus léger pour te réveiller. Donc tu peux utiliser ça, mais sinon tu peux le faire manuellement en mettant voilà, chaque matin tu mets une heure un peu différente pour voir comment tu te sens. Et parce que pourquoi je te dis ça ? Parce qu'il y a des gens chez qui dormir, enfin tout le monde quand on dort peu, c'est pas bon. Moi je sais que si j'ai moins de 6h30 de sommeil, je vais pas être optimal. Il me faut pas moins de 6h30. 6h30 en fait, c'est ma limite basse. Si j'ai moins de 6h30, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est mon temps de sommeil idéal, hein. Ça veut dire que c'est mon niveau minimum. Mais par contre, si j'ai plus de 7h30 ou plus de 8h même, là c'est compliqué. Je vais passer la journée un peu trop vaseux. Je vais pas être comme si mon, tu vois, j'ai pas assez de les bougies de préchauffage, elles sont pas assez puissantes pour me mettre mon moteur à tourner à plein régime toute la journée. Donc il faut trouver son équilibre. Faut pas tomber dans le truc où plus on dort mieux on est, ça c'est pas vrai. Et faut pas non plus se dire bon ben les plus gros entrepreneurs ils dorment 5 ou 6 heures, je vais faire pareil. C'est peut-être le secret pour être en forme. Non, on a tous une durée minimum et une durée maximum, que si on les dépasse, ça veut pas dire qu'on va mourir, mais ça veut simplement dire qu'on va pas être optimal. Et quand t'es en sèche, tous les symptômes, tous les effets négatifs que tu pourrais ressentir en temps normal, ils sont un peu multipliés. Donc si t'es quelqu'un d'agressif, ça va être multiplié. Si t'es quelqu'un d'anxieux, ça va être aussi un peu accentué. Si t'es quelqu'un de jovial, ça va être un peu réduit. Enfin bon, voilà, t'as compris là où je voulais en venir. Donc t'as peur de ressentir tes effets secondaires, commence par te mettre dans une bonne configuration de sommeil. Et dis-toi une chose, c'est que les effets secondaires, tous ceux que tu m'as cités là, c'est beaucoup lié à ton moral, ton ressenti, ton énergie. C'est pas lié proprement dit à la sèche. Parce que la sèche, c'est juste un curseur de sensibilité. C'est-à-dire que quand t'es en sèche, t'es plus sensible. Quand t'es en prise de masse, t'es moins sensible. Donc étant donné que tu vas mettre le curseur sur forte sensibilité, eh ben tu vas devoir travailler autour pour éviter d'avoir des stimulateurs, des stimulants, c'est-à-dire des choses qui vont venir te perturber trop fortement. Donc c'est pas le moment d'être en retard pour payer tes impôts, c'est pas le moment d'être en retard pour rendre un dossier à ton patron, c'est pas le moment de t'embrouiller avec tes potes ou avec ta famille ou avec ton conjoint, ta conjointe. Voilà, il faut bien se dire une chose, c'est que toutes ces situations-là négatives, tu vas les vivre plus intensément et plus désagréablement. Donc c'est peut-être le moment aussi de, peut-être, si t'es un peu aware sur ces sujets-là, d'essayer de l'hypnose pour du lâcher prise, de la détente ou de la méditation de pleine conscience, des choses comme ça qui pourraient potentiellement t'aider. Ou tout simplement, je te dis, si tu manques cruellement de sommeil, de mettre en place une petite sieste de 10-15 minutes ou sur ton lieu de travail ou chez toi, si t'en as la possibilité, quitte à grappiller un peu sur le temps de repas du midi, de manger plus rapidement mais d'essayer de se reposer après. Si personnellement, si j'avais vraiment du mal à dormir ou du mal à être bien en forme, je préférerais sacrifier de la digestion de qualité pour récupérer un petit peu de sommeil. Et après, une fois que c'est que j'ai réussi à me régler, de reprendre un rythme plus long sur le repas. Mais bon, voilà. Voilà ma réponse à ta question. Je m'arrête ici. Si vous voulez aller voir les 14 métiers fitness autres que coaching ou diététicien et tout ça, le lien est en description. Si vous voulez mes recettes du jour, le lien est également en description. Et enfin, dans les notes de l'épisode, là. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Pour la suite, bye bye.
Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.